et du Fils et du Saint-Esprit. Les richesses de ce monde et l'habileté mondaine, voilà le sujet de cette parabole étrange qui semble faire l'éloge de ce qui est objectivement mal. Alors, voyons ce qu'il en est sous deux angles. D'abord dans l'ordre naturel du monde, puis dans l'ordre surnaturel qui nous porte vers Dieu. Dans l'ordre naturel du monde, il est évident que Mammon, l'argent, l'or, le bien en lui-même, est un danger. Et cette parabole ne le remet pas en cause, au contraire, il le met en exergue. L'argent est un danger de ce monde, pas seulement l'argent d'ailleurs, bien sûr, si l'argent est comme ce qui résume toute richesse, parce que c'est un moyen d'échange, et dans l'Évangile, dans la Bible en général, vous trouverez du veau d'or jusqu'au denier donné à Judas, eh bien, il y a toujours le danger de transformer cet argent en notre Dieu. Ce n'est pas la peine de prêcher trop avant là-dessus. Je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux sur notre monde, dont le Dieu le plus grand, dont le plus grand adversaire du Christ, c'est le matérialisme aujourd'hui et sa cohorte de folie, c'est-à-dire servir le monde. Bien sûr, je ne veux pas limiter la richesse à l'argent, car il y a beaucoup d'autres richesses, mais ce n'est peut-être pas le sujet immédiat de cette parabole. Le précieux de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux résume un peu toute richesse, ce à quoi on s'attache et dont on fait un dieu. Voilà posé ici le danger, mais il ne faut pas nous y arrêter, car en fait, ne tombons pas dans le piège de croire que l'argent, que les richesses sont dans leur essence mauvaises. Nous autres chrétiens, nous avons une vision positive du monde et même de ses richesses. Reprenez, si vous l'avez, sinon vous le trouverez facilement, le point 24 des exercices spirituels de saint Ignace, qui après avoir dit que nous sommes faits pour louer, révérer Dieu, notre Seigneur, et par là sauver notre âme, dit la chose extrêmement intéressante et originale, « Toute chose sur la face de la terre a été créée pour l'homme, pour l'aider à poursuivre la fin pour laquelle il est créé. » Voilà comment nous voulons traiter les richesses de ce monde, les traiter en fonction de notre fin, qui est Dieu, mais les traiter pour elles-mêmes, c'est-à-dire non pas nous faire semblant de les mépriser, car en fait nous ne pouvons pas, c'est la condition expédiente de ce monde, d'être aux prises avec la matière, d'être aux prises avec notre propre chair, avec notre besoin de sommeil, notre besoin de manger, notre besoin de boire, toutes nos envies, nos désirs, nos idées, d'être aux prises avec la matérialité des choses. Et les aventures les plus spirituelles n'y font pas exception. Il nous faut nous conjoindre les choses de ce monde pour les ordonner vers Dieu. Alors, allons-nous jusqu'à faire la louange d'une habileté qui nous semble bien malhonnête? Non, bien entendu, le maître loue, ou plutôt il admire, l'astuce de son intendant, peut-être en espérant qu'il l'eût mis au service de Dieu. Combien d'astuces, combien de dépenses d'énergie, combien de réflexions, combien de mise en œuvre totalement incroyable ne mettons-nous pas nous-mêmes pour obtenir ce que nous voulons matériellement? Je suis admiratif, et au sens propre du terme, de la grande énergie déployée pour réussir un examen ou un concours. Je suis admiratif de la grande énergie déployée pour obtenir un contrat ou un argent plus fructueux. Et je regrette souvent que cette énergie, cette force, cette habileté ne soit pas mise, idemment, au service de l'obtention du royaume de Dieu. Oui, cette habileté malhonnête, il ne s'agit pas de la réhabiliter, il s'agit, et c'est une condamnation en fait, de voir que cette habileté a été si mal employée. Mais l'Évangile va plus loin. il nous dit « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ». C'est la condition de notre monde. Nous nous départissons d'une admiration et d'une adoration de l'argent, mais nous ne pouvons faire sans. Alors il nous faudra composer. Cela semble moins noble qu'un appel à un pur détachement. Mais en fait, le véritable détachement fait avec les choses du monde. Si vous ne le croyez pas, quittez immédiatement toute richesse. Certains pourront recevoir un appel, saint François d'Assise se départit même des vêtements de son père, riche drapier, pour venir nu servir le Seigneur et se laisser couvrir du manteau, de la chape de son évêque. Mais tout le monde n'est pas appelé à être saint François. Pourtant, saint François est là pour nous rappeler le sens profond de notre attachement qui ne doit être qu'à Dieu. C'est l'Esprit qui nous fera vivre éternellement. Saint Paul l'a rappelé dans la lecture, dans l'Épître aux Romains. C'est l'Esprit qui nous fera vivre et non pas la chair. Si la chair nous est un moyen, nous ne pouvons nous abandonner indéfiniment à cette chair qui est périssable et qui pourrira. Voilà notre condition. Nous sommes comme sur un fil. Nous avons besoin de notre chair, nous avons besoin de ce monde et de ses richesses pour aller jusqu'à Dieu, car c'est ainsi que la providence divine a voulu disposer que nous gagnions le ciel. Vous le savez bien, spécialement vous, les laïcs, vous avez la charge d'ordonner ce monde, de le réordonner à Dieu, d'y mettre bon ordre, c'est-à-dire l'ordre divin, et il vous faut, à travers les choses de ce monde, à travers des décisions matérielles, mettre de l'argent de côté pour vos enfants, permettre d'avoir un toit, réaliser ce qui sera le mieux pour transporter la famille, bref, dans toutes les dépenses, les pensées et l'organisation des richesses de ce monde qui sont les vôtres, et qui sont aussi celles d'un curé pour sa paroisse, en fait, eh bien il nous faut sans cesse mettre de l'ordre, mettre de la bonté, donner à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire toute l'attention de notre désir d'ordonner ce monde à lui. Voilà pour cet ordre naturel et la nécessaire conjonction avec le monde. Mais peut-être pouvons-nous faire une lecture d'ordre plus surnaturel de cet évangile. Car il s'agit de libéralité données qui ne sont pas dues. Et cela ne peut pas ne pas faire écho dans notre esprit aux libéralités que le Seigneur a envers son peuple. Oui, Dieu est libéral dans le sens, non pas philosophique du terme, mais dans le sens réel du terme. Il nous donne tout alors que nous ne méritons rien. Rien ne peut appauvrir notre Dieu qui répand ses richesses sans cesse, à commencer par la vie, et qui nous en fait vivre maintenant, déjà en ce monde, et qui nous donne les moyens de l'éternité. Oui, peut-être devons-nous nous réjouir que nous puissions recevoir ce qui ne nous est pas dû, c'est-à-dire recevoir au-delà de la justice. Car si nous n'espérons que la stricte justice, mes bien chers frères, vous le savez, notre seule destinée, c'est l'enfer. Et oui, jamais personne ne sera suffisamment saint par lui-même pour mériter le paradis. Le paradis est un don de Dieu, une libéralité indue en raison de notre comportement, et nous nous réjouissons que soit inscrit sur le billet qui nous est remis des libéralités que nous n'avons pas gagnées. Alors bien sûr, notre action n'est pas vaine, elle est une coopération, mais en stricte justice, elle n'est pas suffisante pour nous valoir le ciel. Alors réjouissons-nous que l'intendant de ce monde, que les intendants de Dieu en ce monde, puissent nous remettre nos péchés. Oui, lorsque le prêtre vous pardonne tous vos péchés, ce faisant, il vous donne quelque chose qui ne lui appartient pas et qui, en toute justice, ne devrait pas vous revenir. Mais c'est la volonté de Dieu inaltérable de sauver son peuple et de donner par-delà le mal c'est le sens profond du pardon, donné par-dessus un mal, donné par-dessus une justice qui ne suffirait pas à nous rendre saints, à nous justifier. Oui, nos péchés ne sont jamais un obstacle définitif vers Dieu, ils sont même, j'ose le dire, un sujet de réjouissance. Non pas que je me réjouisse du péché, mais je me réjouis d'avoir péché, car je sais déjà que l'ennemi de la nature humaine n'aura pas mon âme pour autant, car Dieu a disposé que malgré mon péché, je puisse encore m'en remettre à lui. Voilà cette charité qui dépasse toute justice, non pas qu'elle l'abolisse, car Dieu est le juste juge, mais il est juge à une manière qui nous surprendra éternellement. La référence qui pourrait vous venir, c'est celle de Monseigneur Bienvenu Myriel dans le roman de Victor Hugo, lorsqu'à Jean Valjean, il ne réclame pas la justice que les gendarmes, avec toute honnêteté et normalité, viennent exécuter. Il va passer par-delà la justice, sachant parfaitement que cet homme a volé, découvert en argent. Il va lui donner le moyen de trouver la lumière du bien grâce à ses chandeliers qui lui donnent par-dessus, comme pour accréditer le bien que Dieu lui veut, alors que non seulement il ne le mérite pas, mais qu'il mériterait de retourner au bagne dont il est issu. Vous le savez, c'est le point de transformation de Jean Valjean, qui à partir de ce moment va comprendre qu'il y a un autre chemin, et même si Victor Hugo reste humain, très humain, dans cette transformation de vie, elle est le début de la vérité de cet homme et de la bonté pour cet homme. Alors oui, demandons à Dieu qu'il nous remette toute dette et que sa justice nous étonne au point de bouleverser notre âme afin que nous nous convertissions. Il n'y a pas d'autre chemin que de se livrer entièrement à Dieu, et si nous le faisons en ce monde, à travers les moyens de ce monde, y compris les richesses, prions Dieu que nous n'en fassions jamais notre Dieu et notre Maître, et prions Dieu même que nous trouvions là le moyen de notre conversion. Ainsi soit-il.